Europe 1.
Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour Olivier Marleix.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence. Vous êtes le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Beaucoup de questions à vous poser sur des sujets d'importance. Et tout d'abord, entre vous et Rachida Dati, c'est une ambiance tonton flingueur. Et est-ce que les LR vont finir éparpillés façon puzzle?
Non, écoutez, tonton flingueur... Tati Daniel, je ne sais pas, enfin, on va éviter les références cinématographiques, même si la culture s'y prête. Moi, j'ai aucune envie de...
La culture populaire, alors, dans ce cas-là,
de polémiquer, bien sûr, avec Rachida Dati, qui s'est mise en dehors de notre famille politique et qui a rejoint l'aventure personnelle qui avait été celle de Bruno Le Maire, qui, après avoir dit que le président Macron était l'homme sans conviction, sans projet, Monsieur Darmanin, qui avait dit qu'il serait le fossoyeur de nos institutions, Madame Dati avait dénoncé un parti de traîtres, de gauche et de droite. Elle a décidé de les rejoindre, voilà, dont acte.
Heureusement, vous n'avez pas envie de polémiquer ce matin, Olivier Marleix, parce que la nouvelle ministre de la Culture a ironisé sur son OQTF, son obligation de quitter le territoire des LR. Et dans la foulée, vous avez menacé, pour quelqu'un qui n'a pas envie de polémiquer, ça y va fort, de lui envoyer un huissier pour lui signifier son exclusion des LR. Est-ce qu'il faut en arriver là?
Non, mais voilà, Rachida Dati a fait un choix. Elle est en dehors de notre famille politique, dont acte.
Vous allez donc, dont acte, il va y avoir des actes, vous allez très vraisemblablement, Olivier Marleix, lui présenter un plan B des candidats LR face à elle, évidemment au municipal à Paris. Est-ce que vous faites tout pour perdre?
Non, vous savez, je me souviens que quand Rachida Dati a eu ses propos très durs sur le parti de traîtres, c'était au lendemain des municipales de mémoire, parce qu'en fait ce qu'on observait aux municipales, c'est qu'à chaque fois que des maires de droite avaient tenté, pour sauver leur peau, de faire une alliance avec les macronistes, eh bien, ils avaient été sanctionnés par les électeurs. Et que les électeurs, ils aiment la cohérence, ils aiment l'honnêteté intellectuelle, ils aiment la droiture. Et donc, voilà, moi, je pense qu'il faut partir sous nos couleurs et que... On assume le résultat.
Vous assumez quoi? C'est important quand même, parce que c'est la capitale, ce sera une bataille acharnée avec Anne Hidalgo. Est-ce que votre choix est de potentiellement gagner avec Rachida Dati ou d'être assuré de perdre sans elle?
2026, c'est très loin. On sera quasiment en campagne
d'ailleurs,
présidentielle.
C'est trop loin. Et si le fait qu'elle ait annoncé si vite sa candidature...
Si je peux me permettre, oui, c'est visiblement un troc un peu douteux. Où est l'intérêt national là-dedans? Il me semblait que le gouvernement de la France était un peu au-dessus de ces genres de contingences. Voilà, maintenant... Enfin bon, on est très loin et mon intime conviction, c'est qu'en 2026, le macronisme ne sera pas forcément une valeur hyper porteuse.
Je voudrais quand même ajouter ce qui a été dit entre vous, parce qu'on sent aussi votre déception, Olivier Marleix, voire votre amertume. Rachida Dati sort l'artillerie lourde, elle fait du Dati, si je puis dire. Elle a rendu, elle rend coup pour coup. Il y a eu un moment tendu entre vous hier dans l'hémicycle,
non,
au Parlement.
Non,
voilà. Non, pas du tout, tout se passe très très bien, Madame la Marquise. Alors, chahutée, la ministre de la Culture,
aucun
vous
intérêt.
A rétorqué en vous ciblant, et elle dit qu'elle n'est pas une héritière.
Non, mais tout ça n'a aucun intérêt.
Vous allez me dire que tout se passe bien.
Que Madame Dati s'occupe de son ministère de la Culture, ce sera formidable.
Alors, avant les municipales, il y a les européennes. En vue de ces élections, et là, on va parler des conséquences de l'entrée de Rachida Dati au gouvernement sur les LR, eh bien, le RN a appelé vos sympathisants LR à les rejoindre. De l'autre côté, Reconquête, ici même, Éric Zemmour et Marion Maréchal appellent vos mêmes sympathisants à les rejoindre. On dirait que tout le monde veut se partager les restes,
quel
les morceaux des
succès,
LR.
Quel succès pour les Républicains, et M. Macron aussi, n'oubliez pas quand même, qui nous veut absolument. Donc, c'est un succès formidable. Le fait est que pour les européennes, on a désormais une formidable tête de liste. François-Xavier Bellamy, c'est quand même le seul député européen depuis 1979 qu'on élit des députés européens au suffrage universel direct en France, qui se soit fait remarquer, qui soit connu pour son travail. Et donc, voilà, je lui rends un grand bravo. Il est venu sur des sujets absolument essentiels. On lui doit des combats formidables pour défendre la souveraineté énergétique de la France, sur le nucléaire, évidemment, sur le prix de l'énergie. Voilà, quelqu'un d'extrêmement engagé.
Mais quand on dit que quelqu'un...
Qui a un super bilan.
Oui, voilà. Est reconnu pour son travail.
Je ne me souviens pas que monsieur Bardella, pardon si je fâche certains de vos auditeurs, monsieur Bardella ait fait passer le moindre amendement à son nom depuis qu'il est député européen. Donc voilà, moi, je préfère Bellamy.
Vous soulignez la qualité, et il est vrai, du travail de François-Xavier Bellamy, mais certains soulignent un manque de notoriété. Par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas lui adjoindre quelqu'un de plus qui représenterait plus les classes populaires, comme Nadine Morano,
je
en
laisse,
numéro 2 de la liste?
Pour moi, Nadine a toute sa place sur cette liste, j'y compte bien, et voilà.
Bon, l'un des enjeux majeurs, Olivier Marleix, si ce n'est l'enjeu majeur de cette élection des européennes, quand même, ce sera l'immigration. Je voudrais vous soumettre les résultats de notre baromètre CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. À la question suivante, je vais vous la lire, pour assurer l'avenir démographique de la France, faut-il favoriser l'immigration ? Non, pour 69% des Français qui refusent le levier de l'immigration face à la crise de la natalité. Quel signe vous y voyez ?
Je crois que c'est toujours à peu près la même réponse. C'est pas une surprise, c'est une confirmation. Les Français veulent que ce pays retrouve son destin, retrouve sa cohérence. Aujourd'hui, la question de l'immigration, c'est un sujet essentiel pour l'unité du pays. Il n'y a pas de pays uni si chacun n'a pas envie de se sentir français pleinement. Et on le voit bien, aujourd'hui, on n'a plus cette capacité à intégrer dans un projet commun. Donc les Français le ressentent parfaitement. Peut-être que le président de la République n'est pas totalement encore convaincu.
Bah, le président a quand même usé lors de sa conférence de presse, Olivier Marleix, d'un langage guerrier, justement, pour un réarmement, y compris démographique. Pourquoi vous avez des doutes à ce sujet ?
Sauf ici ou là, quand par exemple il minimise volontiers les émeutes dans nos quartiers, en refusant de stigmatiser qui que ce soit, en ne voyant aucun problème d'intégration, d'assimilation, de violence même dans ces quartiers. Il faut ouvrir les yeux.
Il faut ouvrir les yeux, dites-vous ?
Oui.
Il s'est fait combien qu'il est au pouvoir ? Vous dites qu'il a encore des...
Ah, mais il y aurait beaucoup à dire sur sa conférence de presse.
Sur ce point-là, quand même, sur les émeutes, les causes et l'origine, c'est vrai qu'il a pointé l'oisiveté des jeunes, l'ennui, les écrans. Tout est faux, rien n'est à prendre dans sa réponse ?
Je pense que malheureusement, c'est un problème beaucoup plus profond de rejet de notre société, de rejet de notre pays qui s'est exprimé dans certains cas. On croit qu'il y a des faits de mimétisme, d'entraînement, d'un petit peu de bêtises, sans doute. Mais c'est extrêmement présent. On l'a constaté, ce ne sont pas les premières émeutes et peut-être que malheureusement ce ne sont pas les dernières.
Quand le président dit justement pour que la France reste la France, j'imagine que ça vous parle, d'autant plus que c'est un slogan que vous connaissez.
Un bel hommage à Éric Ciotti.
Vous y avez. Alors chacun y a vu un hommage, Éric Zemmour, Éric Ciotti, mais la phrase en elle-même, elle vous parle, et peut-être sur ces sujets-là, pour que la France reste la France, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Le problème du président de la République, c'est qu'il emploie toutes les expressions, tous les mots sont convoqués, toutes les idées dans l'air du temps sont convoquées, il ne faut rien laisser aux autres, au risque de se contredire de manière absolument formidable. On a eu un discours de patriotisme économique, lui qui a vendu Alstom, Alcatel, Technip, qui a vendu toutes nos entreprises, qui a laissé faire une fusion Fiat, enfin un peu PSA Fiat, pas très glorieuse non plus. Enfin,
on dirait que c'est un défausseur. On dirait que c'est quelqu'un qui a vendu nos fleurons. Vous diriez ainsi,
parce que là, bien sûr,
il a vendu nos fleurons et Emmanuel Macron à l'étranger.
Je l'ai dénoncé dans une présidence de commission d'enquête. Et aujourd'hui, on a un discours de patriotisme économique. Voilà, président, sur cette intervention du président de la République, elle était un peu étonnante. On nous avait annoncé que le président de la République allait fixer un cap. Moi, j'ai tout entendu sauf un cap. J'ai vu un président de la République qui partait tous azimuts, qui était en quelque sorte ministre de tout, qui se noyait dans le détail, ministre de tout, président de rien.
Et pourtant, des mots, enfin, vous allez me dire, ce ne sont que des mots, mais parfois, ils indiquent un cap, ont été utilisés, autorité, ordre, tranquillité,
réarmement. Le président de la République manie des mots, les mots changent très régulièrement, ordre et progrès, enfin, vous avez toutes sortes... Non, mais voilà, le problème du président de la République, c'est pas les mots, ce sont les faits, ce sont les actes, et ils ne sont pas au rendez-vous. Il y en a un président de la République qui, dans sa conférence de presse, a dénoncé des problèmes qu'il a lui-même créés, quand il parle de la France de l'angle mort, en parlant des classes moyennes. Enfin, pardon, qui a, depuis 7 ans, plus les 5 ans où il était aux manettes auprès de François Hollande, a entretenu cette politique. Il y a peu de temps, on a supprimé encore les crédits d'impôt qui bénéficient à tous les Français qui travaillent sur la rénovation énergétique, au nom de le remplacer par MaPrimeRénov, qui est mise sous des conditions de ressources beaucoup plus strictes. Donc ça exclut une partie des classes moyennes. On pourrait multiplier l'exemple. Même président de la République qui découvre qu'il y a un problème avec les médecins étrangers. Et qu'il faut sortir de la précarité.
Découvrir, peut-être que c'était un peu fort.
On nous dit qu'il faut les sortir de la précarité. Très bien. On lui a dit, mon ami Philippe Juvin l'a interpellé, nous a interpellé le gouvernement en disant, mais attendez, vous n'ouvrez que 2700 places au concours cette année. Moi, dans mon hôpital à Dreux, j'ai 22 médecins qui ont réussi les épreuves pour sortir de la précarité. Il n'y a que 11 places offertes par le ministère de la Santé. De qui se moque le président de la République ?
Olivier Marleix, est-ce que rien ne trouve grâce à vos yeux, Rachida Dati? On on a compris. Le Premier ministre, là encore, vous allez me dire des mots, mais enfin, ce sont quand même des mots empruntés au vocabulaire, ou en tous les cas à la grammaire de la droite, l'uniforme, l'autorité, l'ordre, la tranquillité. Comment vous jugez les premiers pas du nouveau Premier ministre Gabriel Attal ?
Je ne les jugerai pas sur les mots. Parler d'autorité, c'est bien.
Il n'a pas de bilan ?
Parler d'autorité, c'est bien. Faire preuve, c'est mieux. Il a appliqué la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école, et notamment sur l'abaya. Formidable. Le ministre qui a appliqué la loi, c'est absolument extraordinaire. Donc merci à lui de l'avoir fait, évidemment. Voilà, maintenant,
d'autres ne l'ont pas
maintenant
fait
on jugera sur les actes. Vous savez, ce gouvernement est dans la communication. Moi, ce que j'ai eu vraiment le sentiment hier, avant-hier, pardon, en écoutant cette intervention, c'était que ce quinquennat était fini, qu'il n'y avait plus de projet.
Il reste quand même 3 ans et demi. Il a dit d'ailleurs qu'il se battrait jusqu'au dernier quart d'heure parlant de la bataille contre le Rassemblement national. D'ailleurs, ouais. Il n'a pas du tout cité les autres partis d'opposition. C'est comme si vous n'existiez pas.
Bien sûr, c'est toujours sa minute de publicité pour ses adversaires favoris qui lui a permis d'être réélu au second tour comme prévu.
Attendez, vous pensez qu'il a intérêt à ce qu'il y ait toujours le Rassemblement national en pole position ?
C'est une vieille recette qui a été inventée par François Mitterrand, qui a été évidemment, le président de la République, dès le premier jour de son élection, a voulu installer ce vis-à-vis avec Mme Le Pen, qui lui semblait être la meilleure
et
garantie.
Et vous n'avez aucune responsabilité
de son élection.
Vous n'avez aucune responsabilité dans la montée
peut-être
du RN.
Peut-être qu'on aurait pu faire mieux. Ah oui, alors, pour monter loin dans le temps sur un certain nombre de sujets. Voilà, ça sera un peu long pour y revenir. Mais non, en tout cas, ce que je marque, c'est que de la part du président de la République, il y a toujours cette volonté d'avoir son opposition favorite, son opposition choisie, qui lui a permis d'être réélu grâce à la contre-performance, il faut bien le reconnaître, qui a été celle de Mme Le Pen au second tour de la dernière élection présidentielle.
Vous allez rencontrer tout à l'heure, parce que le Premier ministre rencontre tous les chefs des partis, Éric Ciotti, et vous-même, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Est-ce que pour vous, il y a aujourd'hui une décision, une urgence à prendre en compte avant tout ?
Oui, on restera sur le sujet de l'immigration, puisque c'est là qu'on s'est quitté avec Mme Borne, avec un texte immigration qui a un peu fait imploser la majorité, qui a fait exploser le gouvernement, c'est que les ministres qui ont voulu démissionner, certains ont démissionné comme les ministres de la Santé, donc on lui demandera évidemment de tenir tous les engagements qui ont été pris.
Moi j'ai entendu Gabriel Attal qui vous a...
Sur l'AME notamment, parce qu'il est
confirmé
absolument
que la réforme de l'AME serait...
inadmissible qu'on demande aux Français de payer un peu plus en boîte de médicaments, comme l'assume d'ailleurs le président de la République, 50 centimes de plus de franchise, qu'on rembourse toujours plus les frais dentaires si mal remboursés déjà pour les Français, et qu'à côté, on dépense sans compter pour des gens qui sont clandestins.
Olivier Marleix, est-ce que vous croyez en la parole du Premier ministre quand il vous a dit oui, il y aura bien la réforme de l'aide médicale d'État, c'est acté pour
Je suis, je serai vigilant jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, et puis on sera très vigilant sur, évidemment, les suites que le gouvernement donnera en cas de censure partielle par le Conseil constitutionnel.
Parlons-en, c'est dans quelques jours. Imaginons, Olivier Marleix, c'est tout à fait possible qu'il y ait une grande partie de cette loi immigration qui soit jugée, enfin, quelques mesures anticonstitutionnelles. Vous ne pouvez pas l'imaginer, c'est possible.
Non, il y a 86 articles, je ne peux pas imaginer que le Conseil constitutionnel se livre, piétine un texte qui a été écrit en grande partie par la commission des lois du Sénat, des gens extrêmement
c'est
sérieux.
C'est pas de politique, le Conseil constitutionnel, non. Aux dernières nouvelles. Non.
Non, je ne crois pas, non.
Vous croyez pas ou il n'en fait pas ? C'est important.
Je veux croire qu'il n'en fait pas. Et donc, en tout cas, le seul sujet, ce sera s'il y a des mesures qui sont censurées parce que le Conseil jugerait qu'elles n'avaient pas leur place dans ce texte. Eh bien, il faudra que le gouvernement trouve un nouveau texte pour les réintroduire. Si jamais il y a des mesures qui seraient contraires à notre Constitution et qui sont pourtant absolument nécessaires, au point que le gouvernement a accepté de les présenter à l'Assemblée, il faudrait que le gouvernement en tire les conclusions et se résigne un jour à modifier la Constitution.
C'est le 30 janvier que le Premier ministre compte prononcer sa déclaration de politique générale devant le Parlement. Gabriel Attal, confirmation qu'il n'y aura pas, Olivier Marleix, de vote de confiance suite à ce discours. Vous le regrettez ?
Non, ils n'ont pas de majorité. Et ce nouveau gouvernement, je ne sais pas s'il changera quelque chose à la vie des Français, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, il ne change rien au fait qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc ils ne peuvent pas demander la confiance qu'ils n'auraient pas.
Pour conclure, le président dit réarmement démographique, réarmement civique, réarmement de Sarah. Si vous deviez choisir un réarmement, urgent pour la France, quel serait-il, Olivier Marleix?
Le sujet de nos frontières est évidemment essentiel. En second lieu, celui de la natalité, là aussi, quelle responsabilité du président de la République. Ça fait 5 ans, 7 ans qu'on lui demande de remettre en cause les mesures anti-natalité prises par le gouvernement Hollande, auquel il appartenait, notamment sur le quotient familial qui pénalise les familles qui ont des enfants ou l'absence d'universalité des allocations familiales. Bien. Que ne l'a-t-il fait plus tôt?
Bien. Est-ce que vous souhaitez, pour terminer, bonne chance à Rachida Dati dans son nouveau ministère, malgré tout?
Bonne chance, si vous le voulez, à ce nouveau gouvernement
rien,
pour la France.
Je vous le demande bien. Pour la France, comme vous le dites. Olivier Marleix, merci. C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1 et à bientôt.
Merci, Sénéa.